BFM Business, vos placements, nos conseils, BFM Bourse, Antoine Larigauderie.
Wow, correction spectaculaire sur les prix du brut, hein. On n'est plus qu'à, allez, 91$ sur le Brent de Mer du Nord, allez, 92. Enfin, ça reste quand même une des bonnes nouvelles de la semaine, une bonne semaine pour le CAC 40 qui gagne encore quasiment 2% sur les 5 séances, après avoir déjà gagné 2% la semaine d'avant. Donc on est en hausse de 0,58% là cet après-midi à 8236 points. La tech sous-performe un petit peu. Enfin, on a eu une semaine si extraordinaire, et notamment dans le secteur des semi-conducteurs, qu'il fallait bien que ça s'arrête un peu là, qu'on prenne quelques profits, qu'on liquide un peu de bénéfices. Le Euronext Tech Leaders, lui, est quasi inchangé, plus 0,07% à 3022 points. Petit coup d'œil sur les autres indices européens. On a un Eurostock 50 qui grimpe de 0,31%, plus 0,26% pour le DAX à Francfort, plus 0,56% pour l'IBEX à Madrid. Un petit coup d'œil sur Londres, c'est plus 0,17%. Et Milan, plus 0,23%. Du côté de Wall Street, on est en hausse, sans trop d'excès, mais on est encore sur des records historiques, hein. Plus 0,1% pour le Nasdaq, 26 949 points. Le S&P 500, plus 0,22%, 7 580. Et du côté du Dow Jones, on a redépassé les 51 000 points avec une hausse de 0,68%. Du côté de Paris, on a laissé un petit peu de côté la tech. On revient sur d'autres types de secteurs, mais qui ont déjà pas mal marché, hein, ces derniers mois, notamment le secteur bancaire. Société Générale, plus forte hausse du CAC à plus 2,31, 71,68 €. La plus forte baisse, donc je vous l'ai dit, hein, pour les semi-conducteurs, STMicroelectronics perd 1,87 à 58,68 €. Mais enfin, le titre décollait depuis le 1er janvier. Fallait bien qu'on solde quelques bénéfices. Pareil pour Eutelsat sur le SBF 120. Le titre perd 14,5% à 3,86 €. Il ne faut pas oublier qu'il est très volatile. SES aussi dans le domaine des satellites perd pas loin de 4%. On est à 9,50 et Soitec moins 7,18. On est à 178,80 €. Soitec, on le rappellera, hein, qui gagne plus de 500% depuis le 1er janvier. Donc de temps en temps, quand on a des baisses assez importantes comme ça, c'est pas non plus illégitime. À noter des valeurs un petit peu plus traditionnelles qui sont aux avant-postes. On a De Richbourg qui n'en finit pas d'attirer les opinions positives des analystes. Là en plus, le groupe a relevé ses prévisions pour l'année, plus 6,35. On est à 10,14 €, mais on a aussi Pierre et Vacances qui signe une très très belle performance avec une hausse de 5,6% après ses résultats. Donc on a un petit cocktail de valeurs un petit peu plus traditionnel là qui signe de bonnes performances et qui attire à nouveau les investisseurs. Tout ça pour qu'on finisse avec un CAC 40 quasiment au plus haut du mois, mais on signe un joli mois de mai, hein. C'est la dernière séance du mois aujourd'hui. On fera les comptes au terme du fixing, mais enfin les choses se passent bien. Donc Pierre et Vacances, on vous en a parlé, hein, doucement mais sûrement, le groupe se signale et se distingue parmi un secteur du tourisme qui signe une certaine forme de recovery depuis ces dernières semaines, malgré l'agitation géopolitique. On vient sur les accords, mais est-ce que Pierre et Vacances n'a pas le portrait type de l'investissement rêvé dans le secteur, en tout cas, du tourisme de proximité, avec des considérations sociologiques et d'inflation qui font qu'on aime bien partir en vacances en France, et puis accessoirement à l'abri de l'agitation géopolitique, avec de l'immobilier, avec tout ça. Donc on va revenir là-dessus. Et puis Worldline, c'est vrai que le titre s'en tire bien, la semaine aura été plutôt positive avec le directeur général qui était notre invité en début de semaine et qui semble vouloir dire que le groupe est quand même en meilleure santé là en ce moment. Est-ce pour autant le moment de réinvestir Worldline? Bon, vaste question, on va essayer d'y répondre dans quelques instants dans le club et également quand on refera la séance. Après le fixing, pour l'instant on parle du reste de l'actualité économique du jour avec Emmanuel Macron qui promet des annonces formidables d'investissement à l'occasion du 9e sommet Choose France, lundi au château de Versailles. Formidable, il fait un peu du Donald Trump. Le président de la République les évalue à 87 milliards d'euros depuis le premier sommet en 2018 et on attend cette année des mesures, notamment dans le domaine des terres rares. La construction de la première usine en France de matériaux actifs de cathode, c'est des composants utilisés pour la fabrication des batteries de voitures électriques, c'est pas n'importe quoi. Ils ont été officiellement lancés aujourd'hui à Dunkerque, 400 emplois à la clé. Baptisé Neomatcam, ce site vise le marché européen et permettra d'équiper jusqu'à 500 000 véhicules électriques par an grâce à une capacité de 40 000 tonnes. Enfin, 9 000 entreprises à peu près ont demandé un prêt flash carburant selon BPI France. Lancé le mois dernier, le dispositif permet aux TPE et PME d'emprunter jusqu'à 50 000 euros à 3,8% sans garantie, avec un effet différé d'amortissement d'un an. Quinzaine de millions d'euros ont été décaissés. Des dossiers de demande pour 60 millions supplémentaires sont en cours d'instruction. Allez, tout de suite, on ouvre le dernier club BFM Bourse de la semaine.
BFM Bourse, le club de la bourse.
François Dossou, CNIM, bonjour.
Bonjour Antoine.
Et Cyriac Dayan, Sanson Longchamp, IS. Bonjour.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. Je le disais, un CAC 40 qui termine quasiment au plus haut du mois, en signant deux semaines consécutives de bons redressements. On a eu un petit peu de tout, alors on passera en revue les secteurs en détail un petit peu plus tard, mais on a l'impression que les secteurs prenaient les relais des uns des autres, et que là on termine avec des valeurs un petit peu plus traditionnelles. Mais enfin, globalement, les choses se passent globalement bien, François.
Oui, si vous voulez, nous étions arrivés sur les marchés sur un tel niveau de concentration qu'au moment où une concentration en fait qui était autour des valeurs pétrolières, de l'IA, et donc et de l'autre côté, vous aviez les valeurs qui étaient disruptées ou les valeurs qui étaient pénalisées par la fermeture du détroit d'Hormuz. Donc au moment où on voit, on espère, parce qu'on navigue quand même entre espoir et désespoir, en fait, les nouvelles se suivent, mais elles sont pas forcément toujours assez simples à lire. Donc on a l'impression quand même qu'il y a des négociations qui vont dans le bon sens. Et donc c'est logiquement que au moment où la crise en fait commence un peu à se tasser, que les valeurs qui avaient été pénalisées, notamment les valeurs de l'économie traditionnelle, elles rebondissent. Et donc là vous avez des valeurs du tourisme qui sont en train de rebondir, mais vous avez aussi des valeurs qui étaient particulièrement absentes des portefeuilles. Et donc quelque part c'est une manière de prendre des profits sur ce qui a fonctionné et pouvoir faire une allocation sur des valeurs et des secteurs qui ont moins bien fonctionné. Et donc, ça contribue à une plus grande diversification des portefeuilles. Parce que je redis aujourd'hui, les portefeuilles ont été particulièrement... vous étiez sur un marché qui était très polarisé et vous avez quand même des soucis de diversification dans des portefeuilles aujourd'hui, hein, avec des titres qui sont présents dans tous les portefeuilles et d'autres, tout un pan de la côte sur lequel, en fait, personne ne veut plus se positionner.
Bon, Cyriac Dayan, géopolitique, politique monétaire, on a l'impression finalement que le marché se dit, bon allez, tout est intégré désormais, et on recommence à élaborer des stratégies. Est-ce qu'il est un petit peu tôt pour se dire ça, ou est-ce qu'effectivement il y a des lumières vertes qui commencent à s'allumer un petit peu partout ?
Il y a une lumière verte sur le marché actions, c'est les résultats des entreprises en fait, parce que si on regarde la réalité globale des différents marchés, il y a le marché actions qui est revenu plus haut que c'est plus haut, j'ai envie de dire, quand on regarde les actions américaines, par exemple. Cette tendance extrêmement impressionnante, elle s'explique par les excellents résultats, et c'est un peu la nouveauté du moment, des excellents résultats aux États-Unis qui sont vraiment stratosphériques. On parle de 28% de croissance de bénéfices sur un an. La nouveauté, c'est qu'en Europe, c'est pas si mal, on est moins bien, on est à 13-14, mais c'est quand même une très bonne nouvelle. Mais c'est le marché actions, il est soutenu par ces résultats des entreprises qui sont extraordinaire, et là il faut, c'est le mot est adapté. Mais si vous regardez par exemple le marché de taux, vous en voyez pas du tout la même histoire. Le marché de taux, il est toujours, les taux sont quasiment sur les plus hauts de l'année, et eux ils considèrent pas que la question géopolitique au Moyen-Orient est terminée. Quand on regarde le pétrole, alors certes il rebaisse depuis quelques jours, mais il est pas du tout revenu à l'avant annonce de la guerre avec l'Iran. Donc je dirais que le marché actions, il est un peu seul dans son histoire, mais elle est justifiée pour une raison qui est relativement logique, c'est les résultats. Parce que quand on achète des marchés actions, on achète des résultats des entreprises et qui sont assez extraordinaires.
Mais encore une fois, la clé de tout, ça reste les taux. Alors c'est vrai qu'à court terme, et ça peut être un petit peu trompeur, on en a parlé tout à l'heure avec Michel Rouimi de Lévy Capital Partners, vous pouvez le réécouter d'ailleurs en podcast et en replay, c'était absolument passionnant, on a fait un panorama macro, mais c'est vrai qu'on a l'impression qu'à court terme, on est revenu sur des niveaux, bon, allez, tranquille, de début mai, mi-avril, mais ça peut s'agiter à nouveau très très fort, très très vite, et dans pas très longtemps.
Non, il faut faire très attention. C'est vrai que les indices, quand vous les regardez, vous avez l'impression qu'il ne s'est rien passé. Mais une fois de plus, quand vous regardez le CAC 40, hein, vous avez STM qui a plus 160% depuis le début d'année. Vous avez de l'autre côté Essilor qui est à moins 33, Hermès qui est à moins 25, LVMH qui est à moins 25. Donc c'est vrai que quand vous regardez de manière globale les indices, et c'est aussi vrai en termes de valorisation, vous avez quand même des indices qui finalement n'ont pas beaucoup bougé, qui sont valorisés normalement, mais quelque part quand vous redescendez dans la côte, quand vous commencez vraiment à regarder les valeurs une par une, vous vous rendez compte en fait que elles ne sont pas logées à la même enseigne. Et je rebondirai sur le support des bénéfices. C'est vrai que quand vous regardez, il y a une très forte corrélation entre les entreprises et les secteurs qui ont très bien performé et les entreprises qui affichent les meilleures croissances bénéficiaires. Donc, quelque part, on peut considérer que ce marché a une certaine forme de rationalité. Là où il est un peu plus complaisant, mais on reviendra sans doute, c'est sur les valeurs, les valorisations aujourd'hui dans le domaine de l'IA, avec des valorisations qui sont de plus en plus stratosphériques, mais si vous voulez, dans l'économie traditionnelle, mais aussi dans des valeurs telles que les semi-conducteurs, vous commencez à avoir des valorisations qui commencent à être particulièrement tendues, et peut-être rester un peu plus attentif en fait sur le fait que finalement les arbres ne montent pas au ciel. Ouais. Quelle que soit leur capacité à générer des bénéfices, on parle quand même des bénéfices futurs, il y a toujours un côté aléatoire sur des bénéfices qui sont promis aujourd'hui et qui ne sont pas certains.
Cyriac Dayan, c'est vrai qu'on a vu, et on l'a dit hein, en introduction, on a vu pas mal de secteurs animer la cote la semaine dernière, cette semaine aussi, ça aura vraiment été la semaine des semi-conducteurs, on parlait plus que d'STMicro, de Soitec, d'ASML. Est-ce que là aussi, ça a peut-être eu le mérite de mettre le focus en disant, attention, l'un n'est pas au même stade de développement que l'autre, l'un ne fait pas le même métier que l'autre, il y a une certaine granularité, encore une fois, mais justement, ça a le mérite de donner un point de vue beaucoup plus pertinent sur les capacités de croissance de ce secteur.
Oui, ça permet finalement de distinguer, parce qu'on peut le voir de loin, mais quand on regarde ces entreprises que vous citez, c'est finalement des business models, des objectifs qui sont extrêmement différents. Et la corrélation avec l'IA, et l'IA étant un concept qui peut être extrêmement large, elle n'est pas si, en tout cas, elle n'est pas si simple que ça. Et donc, à un moment donné, de toute façon, le marché a cette capacité finalement à séparer les sujets, à dire c'est les gagnants, les perdants, mais il y aura des gagnants au sein du monde des semi-conducteurs, il y aura des gagnants sur les data centers, enfin, il y aura des gagnants différents. Et donc, je pense que le marché, et aujourd'hui, en tout cas, les investisseurs sont plutôt dans cette logique-là. Et ce qui est intéressant, c'est que le CAC 40, puisqu'on va revenir sur cette belle performance du CAC 40 depuis le début du mois, il faut le relativiser d'une certaine manière, parce qu'on est plutôt en queue de peloton sur les grands indices européens depuis le début de l'année. Et ce qui peut nous impacter, c'est aussi la construction sectorielle de notre indice. Et là, vous citiez le retour des banques, et ça serait plutôt une bonne nouvelle pour le CAC, ça, oui. Si on pouvait avoir le retour de la Société Générale ou de BNP, parce que c'est un point important. Et donc, globalement, on est vraiment ces rotations sectorielles, et vous citiez à raison, c'est des rotations sectorielles, j'irais pas jusqu'à dire que c'est intraday, mais on n'en est pas très loin. C'est-à-dire que un jour, c'est un secteur qu'on va mettre en avant, le lendemain, c'est un autre. C'est ça. Et on voit que les dynamiques, finalement, sont pas si claires, si ce n'est, et je trouve qu'il y a un élément qui est quand même très intéressant, c'est la qualité, quand vous regardez le style qualité, en Europe. Il continue à sous-performer, mais de manière assez extraordinaire. Alors, il y a des petits rebonds, des mouvements, mais il y a vraiment aujourd'hui une sorte de défiance. Et on citait LVMH, on citait ces grandes boîtes françaises qui sont des points importants. Ouais. Là, pour l'instant, il y a des micro-rebonds, mais on n'a pas revu cette tendance de fond qu'on peut tous espérer.
Non, on aurait pu croire, hein, justement, avec les résultats du secteur du luxe, bon, qui globalement n'était pas forcément très très bon, mais pas désastreux non plus. On a eu quelques indications qui étaient positives avec les Richemont, avec les Burberry, etc. Mais c'est vrai que le secteur du luxe n'a pas du tout rebondi en France. En tout cas, comme il mériterait de rebondir et qui permettrait de mettre des munitions de côté. Maintenant, ouais, le secteur bancaire. Et alors, c'est vrai que Société Générale est plus forte hausse aujourd'hui, plus de 2,5% à 71,85 €. Mais on a un paysage de taux et une activité général, économique, qui commence à redevenir très favorable au secteur bancaire, qui a signé de très bonnes performances depuis un an et demi, mais qui en a peut-être encore sous la pédale, François.
Oui, en fait, ce qu'il faut voir, c'est que le secteur bancaire, ça a quand même bien, il a quand même bien rireté depuis un an. Oui. Il a bien rireté, en fait, même si, quand vous regardez, le rerating, il n'a fait que suivre, en fait, leur capacité à améliorer leur rentabilité. Et donc, il n'y a pas aujourd'hui de déséquilibre majeur sur le secteur bancaire pour se dire qu'il faut absolument continuer à être sur le secteur. C'est un secteur qui a bien performé. Il ne faut pas oublier aussi que c'est un secteur qui est très dépendant de l'environnement économique. Et ça ne vous a pas échappé, en fait, qu'aujourd'hui, vous avez quand même des indicateurs économiques, notamment en zone euro, qui ont plutôt tendance à ralentir, qui ont plutôt tendance à fléchir. Et de ce point de vue, l'exposition domestique des banques ne peut pas être un soutien au secteur bancaire, qui, comme je le disais tout à l'heure, a quand même déjà bien ouais. fonctionné. Non, je pense que nous sommes arrivés dans une ère où, après avoir vu des mouvements plutôt factoriels, où les entreprises, les secteurs sont montés plutôt à l'unisson, il est quand même temps aujourd'hui, et je reviens sur les indices, je pense que le problème, ce n'est pas le niveau d'indice. Aujourd'hui, le problème, c'est la diversification et aller chercher des entreprises qui en ont encore sous le pied. Probablement que vous avez aujourd'hui dans le secteur bancaire la nécessité de faire des tris entre les valeurs et ne plus être de manière un peu systématique exposé sur toutes les banques comme ça a été le cas jusqu'à présent, où elles ont plutôt toutes bien performé sur les 12 derniers mois, à quelques exceptions près.
Bah, là, encore une fois, on parle granularité. Hein. C'est vraiment le mot-clé du moment, hein, tous les secteurs. Il y a également, et on ne peut pas s'empêcher de voir, les valeurs du tourisme, tiens, les Pierre et Vacances, les Accor. De Richebourg, tiens, qui gagne 6,5% aujourd'hui, avec un relèvement des prévisions. Cyriac Dayan, ces valeurs un petit peu plus traditionnelles, qui étaient un petit peu off-scope là, ces derniers temps, elles reviennent au cœur de l'actualité en disant « Non mais attendez, vous avez vu comment on est géré ? Vous avez vu nos qualités ? Vous avez vu comment on est au cœur de l'actualité et des confluences d'intérêts économiques ?» On a l'impression que là aussi, il se passe quelque chose d'étonnant.
Oui. Alors je pense qu'encore une fois, la granularité, il faut l'avoir aussi dans cette analyse-là, parce qu'on cite des secteurs, le secteur du tourisme, globalement, a été impacté directement par ce qui se passe d'ailleurs encore actuellement au Moyen-Orient.
Mais on se dirait justement, il y aurait toutes les raisons qu'il aille au tapis avant de remonter. Ouais, bah,
il a quand même, alors peut-être que le cas de Pierre et Vacances se distingue, mais globalement, le secteur, si on regarde travel and leisure, donc le secteur global, voyage et loisirs, ça a été quand même une période assez compliquée, les derniers mois, assez violente. À raison, hein, il y a vraiment une forme d'incertitude sur l'environnement global.
Bah, quand on dit à Dubaï qu'on passe d'un taux d'occupation de 80% à 10%, oui, là, c'est du tangible.
Exactement, le marché a cette capacité d'anticipation ou j'ai même pas envie de dire d'anticipation, d'intégrer de manière quasi automatique et instantanée des données qui paraissent très compliquées. Alors, il peut se tromper, des fois il réajuste, mais en tout cas, l'idée, c'était ça. Et maintenant, on voit que finalement, comme ces valeurs ont beaucoup baissé, on se pose la question de savoir si ça peut rebondir. Donc ça, c'est le premier élément. Après, sur De Richebourg, je pense que c'est une autre histoire, c'est une histoire de qualité. Mmh. Et là, je vous rejoins complètement. Comme je disais, c'est quand même un style, c'est le pire style en Europe depuis le début de l'année. Mmh. Et à un moment donné, de se dire que je vais acheter des belles boîtes où il y a de la visibilité, qui sont bien gérées, ça peut paraître une bonne idée. Mais le marché a aussi, et ça, il faut bien l'intégrer, si on a raison seul contre le marché, en fait, on n'a pas raison, on a tort.
C'est ça.
Et globalement, le marché aujourd'hui n'achète pas ces histoires-là, il achète des histoires, le secteur énergétique, bien sûr, avec tout ce qui se passe, mais également tout ce qui est lié à l'IA. Et demain, à un moment donné, la qualité repaye. À un moment donné, dans l'histoire des marchés, ça revient. Mais aujourd'hui, c'est pas le secteur, c'est pas le style à la mode, j'ai envie de dire.
C'est étonnant d'ailleurs, parce que fondamentalement, ça devrait être celui qui marche le mieux, mais non. Mais oui, le marché a des biais comportementaux, effectivement aussi. Allez, encore un petit quart d'heure de cotation du côté de la Bourse de Paris. Et on a un CAC 40 qui est toujours en hausse, plus 0,5%, 8229 points, pas d'excès, on reste sur une progression tranquille, on va dire. Plus 0,33% pour l'Eurostock 50 et même score pour le DAX à Francfort, plus 0,9% pour l'IBEX à Madrid. On a un petit coup d'œil sur les marchés américains. Alors tiens, oui, aussi un chiffre important, c'est la volatilité qui est en train d'être repliée. Hein. On parle de l'indice VIX, l'indice de Chicago. On est à 15,5, donc plus bas depuis plusieurs semaines. Les choses semblent vouloir se calmer du côté des marchés américains en termes de volatilité. Le Nasdaq gagne 0,27%, plus 0,79% pour le Dow Jones et le S&P 500, plus 0,32%. Plus forte hausse du CAC 40 à Paris, c'est Accor, plus 2,31, 47,75€. Plus forte baisse, Sanofi, moins 1,8% à 74,98€. Puis il se passe des choses sur le SBF 120, sur l'indice large. De Richebourg, dont on vient de parler à l'instant, gagne 6,6%, 10,17€. La plus forte baisse, elle est pour Eutelsat, des prises de bénéfices assez violentes, mais enfin, il faut dire qu'on sort de semaines de hausse continue, moins 13,9%, 3,88€. Un petit coup d'œil sur les marchés pétroliers et on a une très nette baisse. Le Brent de Mer du Nord retrouve le plancher des 90$, 90,31. Et du côté du Brut léger américain, on est à 86,79. Tiens, on va peut-être parler justement de toute cette vogue autour du spatial, autour du... Il y a quand même la méga introduction de SpaceX qui est attendue là pour très très prochainement, dans les prochaines semaines. Malgré tout, on sent qu'Elon Musk est un petit peu plus prudent. Il avait en tête des chiffres de valorisation de 2000 milliards de dollars. Bon, visiblement, ce sera un petit peu moins. Donc, on fait tactique, hein, c'est comme une introduction traditionnelle. On essaie de ne pas faire un prix trop cher pour pouvoir prendre de la valeur encore en bourse le premier jour et éviter de décourager les investisseurs. Et on a l'impression qu'il se passe la même chose autour d'Anthropic, qui nous donne des... Enfin, source officieuse qui nous donne des chiffres de valorisation qui iraient du côté des 1000 milliards de dollars. Moi, j'ai entendu 1400 il y a encore deux ou trois semaines. On a l'impression que même les supercadors qui vont s'introduire en bourse sont sur un pied un petit peu prudent en disant « ça va être très disruptif de s'introduire en bourse, alors autant y aller au juste prix ». Cyriac, c'est votre impression, justement ?
Oui, je pense que c'est... Il n'y a rien de pire qu'une introduction en bourse qui se passe mal et l'action décroche de 10, 20, 30 %, sachant que un certain nombre d'actionnaires privés de ces sociétés ont des engagements de pas vendre les actions sur une certaine durée. Donc c'est pas non plus dans leur intérêt d'avoir un pricing extrêmement élevé si l'action cote 100 et que quelques jours plus tard finalement elle est à 90. Tout le monde serait plus ou moins perdant. Alors certes, peut-être sur la une des journaux, ça serait mieux de dire que c'est à 2000, mais si c'est à 1800 ou même 1500 SpaceX, ça reste quand même des montants extrêmement importants. Et aussi, il faut bien avoir en tête que le marché, finalement, le prix d'une action, c'est de l'offre et la demande. Et là, on n'est pas sur des marchés organisés. Et donc, c'est une estimation, et une estimation qui, par nature, est moins parfaite que quand c'est quelqu'un qui achète ou qui vend une action. Donc je trouve assez sain finalement que par rapport à ces annonces, il y ait des révisions à la baisse, ça me semble logique, mais ça reste dans des proportions assez limitées finalement, et puis surtout les montants qu'on annonce, c'est historique, il n'y a pas d'histoire avec des introductions aussi importantes, donc ça il ne faut pas non plus l'oublier.
François, qu'il y ait un minimum de rationalité chez les acteurs les plus irrationnels de ce marché.
Oui, ben moi, c'est rassurant. Là, je pense qu'on est quand même sur l'épaisseur du trait. Hein, parce que si vous voulez, une valorisation à 2000 milliards ou 1800 milliards, ok, c'est peut-être 10% plus faible. Moi, ce que je constate quand même, c'est que la valorisation, elle intègre 90 fois le chiffre d'affaires. Certes, sur un marché qui est à peu près équivalent à la taille du PIB américain, mais on reste quand même sur des valorisations qui restent stratosphériques. Et c'est pas le fait d'avoir baissé de 10%. Non, la valorisation qui va changer quelque chose. Non, ce qui va quand même vraiment changer quelque chose de mon point de vue, c'est le fait que quand vous regardez la partie du capital qui est introduite en bourse, elle est quand même ridicule.
Oui, elle est.
Donc là, vous êtes en train d'organiser les conditions d'une pénurie qui vont évidemment se retrouver qui vont être impactantes sur le titre. Moi, je me pose encore la question, comment est-ce qu'on peut aller, enfin, d'un point de vue réglementaire, comment est-ce qu'on peut exposer. Après, c'est difficile de mettre des seuils de capital, mais là, si vous voulez, toutes les conditions sont réunies, ils peuvent mettre à peu près n'importe quel niveau de valorisation, vu le peu de titres qu'ils offrent au marché, ça ne peut que bien se passer. Donc, c'est pas... Non, moi, j'ai une lecture un peu différente sur le fait qu'ils s'inquiètent. Je pense que là encore, on est un peu dans une sorte de mascarade où on fait semblant de donner l'impression qu'on se soucie. Notamment, il a annoncé qu'une partie importante était réservée aux investisseurs particuliers, au retail, hein, pour dire que moi j'aime bien les investisseurs retail. La réalité, c'est qu'il détiendra toujours 42% du capital, 42% avec des droits de vote double, c'est-à-dire 84%. Donc soyez prêts à être minoritaire auprès de Elon Musk. Bon courage, soyez pas trop regardant sur la gouvernance. Non, je pense qu'on commence à rentrer dans des excès avec des histoires qui sont pas forcément les plus
reluisantes,
en fait. Les plus reluisantes.
En
bourse.
Il y a un facteur qui est quand même important, parce que c'est vrai que c'est un cas symptomatique, et puis encore une fois, on est en plein, on est en pleine galaxie Musk. Parallèlement, il y a Anthropic, il y a OpenAI qui doivent s'introduire aux bourses. Là aussi, on a l'impression d'une certaine prudence, dans le sens où, on prend toute la mesure du trou noir que c'est comme entreprise. On en parlait un petit peu plus tôt dans cette émission. On a l'impression qu'on ne fait des bénéfices que autour du trou noir. Maintenant, le trou noir en lui-même, c'est Event Horizon. On ne voit rien. On ne sait pas où ça va. Et donc, du coup, on a peur d'être tellement disruptif que le grand public et les investisseurs se mettent d'un coup à pu aimer l'IA. Cyriac.
Ah, c'est un point très important que vous soulignez, c'est-à-dire que quand on est sur des marchés cotés, il y a des obligations légales.
Oui.
Donc on monte des chiffres, on les monte de manière normée, ce qui permet de comparer toutes les entreprises les unes avec les autres, c'est des normes. Quand on est sur des actions ou des sociétés qui ne sont pas cotées, la lisibilité ou la compréhension, elle est quand même beaucoup plus réduite. Et donc là, mécaniquement, et c'est un peu le revers de la médaille pour ces entreprises, c'est qu'elles vont être obligées un peu de se dévoiler, dévoiler combien ils gagnent sur leur business model, combien ils vont rentrer, et quelles sont les perspectives à moyen long terme, et quels sont finalement les taux aussi de réussite entre les gens qui utilisent ChatGPT ou Claude ou je ne sais quoi, et ceux qui vont accepter de payer. Et donc, et je pense que ça, c'est un élément qui va être extrêmement important dans la compréhension de tout cela. Et donc, on va avoir une forme de principe de réalité qui va s'imposer à tout le monde. Mmh. Et oui, je pense que d'une certaine manière, ces entreprises sont pris entre deux tendances. C'est-à-dire, d'un côté, rentrer sur le marché listé, c'est la possibilité de rentrer, j'ai envie de dire, dans le vrai monde des entreprises et pouvoir, surtout quand on a ces tailles-là, pouvoir un peu se développer. Et puis, pour les actionnaires historiques aussi, sortir une partie de leurs actions. Mais c'est aussi le sujet de dire qu'on nous a vendu une belle histoire avec des dépenses qui sont quand même stratosphériques. Je pense que l'IA en tant que telle, c'est une révolution majeure. Néanmoins, il faut toujours se rappeler la bulle Internet. Alors, je fais pas une comparaison directe, mais en 2000, on a cramé énormément de cash pour qu'en 2010 ou dans les années suivantes, on puisse avoir l'Internet qu'on utilise aujourd'hui. Et ce cash, il a été cramé finalement à bon escient, puisque ça nous a permis de développer. Par contre, les gens qui ont mis l'argent en 2000 l'ont pas retrouvé, en tout cas pas de cette manière-là. Et donc, il faut bien avoir en tête que les dépenses qui sont stratosphériques aujourd'hui, il y a une partie de cet argent qui sert un peu à développer l'infrastructure globale et ne sera pas forcément rentable de la même manière que ce qu'on a pu voir dans les années 2000.
Encore une histoire de granularité. On n'en sort pas.
On est toujours au même point.
Ouais. François, le mot de la fin. Bon, on signe quand même un joli mois de mai sur le CAC 40 pour. On dit souvent sell in May and go away.
Non, non. Ouais. Ouais, je pense que le CAC 40, si vous voulez, grâce à une rotation qui va s'accélérer, je pense que jusqu'à présent, on a vu que parmi les titres qui ont rebondi, il y a quand même pas mal de rachats de shorts. Je ne sais pas comment l'interpréter. Je pense que probablement qu'il y a des investisseurs qui ont bien gagné sur les shorts, les ventes à découvert, et qui sont plutôt en train de réduire le risque action. Et donc, ça, c'est pas forcément un élément très encourageant. Par contre, je vois que sur tout un pan de la côte des valeurs de croissance dont on parlait tout à l'heure, qui sont restées au tapis, qui n'ont pas encore rebondi, je mise sur cette seconde phase de rebond qui va être sur une sorte de rebond un peu plus sain, un peu moins. On achète systématiquement ce qu'il y avait. Enfin, dans les phases de rebond, ça commence toujours de manière assez brutale comme ça. Et après, on commence un peu à être un peu plus sélectif. Et donc, je pense que le CAC 40, de par sa composition sectorielle, notamment son exposition au secteur de luxe, peut encore surperformer sur les semaines et les mois à venir.
On l'attend, ça se réveille du luxe. Il y a eu quelques petits frémissements, mais enfin, rien de bien notable. Et ça pourrait être le tournant, justement, ce rebond du secteur du luxe. Allez Mathilde, on passe en plongée périscopique, s'il te plaît. Puisqu'on entre dans la Data Room, et avec vous François, on va parler de l'inflation américaine. 62 mois consécutifs d'inflation au-dessus des 2% pour les données PCE, revenus et dépenses des ménages.
On se rend compte que depuis bien avant la période Covid, vous êtes sur une inflation cible qui n'a jamais été atteinte. Donc la raison c'est quoi? C'est qu'on sait que la banque centrale américaine, elle a un double objectif qui est aussi de protéger l'emploi et la croissance. Et donc, quelque part, on se dit que dans cette inflation, il y a une partie quand même qui devient structurelle et que c'est plutôt une banque centrale qui est de ce point de vue rassurante parce qu'elle raisonne en termes de régime au-dessus d'une certaine cible sans pour autant chercher systématiquement à aller atteindre cette cible. Et ça nous amène peut-être à relativiser aujourd'hui ce prisme sur le marché, sur l'inflation, alors qu'on voit que les indicateurs économiques sont en train de se ralentir. Donc, je trouvais que ce chiffre qui montrait que la Banque centrale américaine ne cherche pas systématiquement à atteindre cette cible, soit aussi parce que quelque part cette cible est désormais inatteignable et que cette inflation devient structurelle. Mais en tout cas, c'est quand même rassurant de voir que les anticipations aujourd'hui de hausse de taux sur le marché liées à l'inflation seront pas forcément se concrétiseront pas forcément parce que la Banque centrale est très soucieuse de garder quand même un équilibre entre croissance et inflation.
Mais c'est peut-être ça aussi le secret, c'est à la limite, on pourrait se dire, mais pourquoi ils s'embêtent à avoir des objectifs chiffrés ? Ça sert à rien, mais surtout dans le contexte économique actuel. Et y compris à la BCE, j'allais dire. Non.
Non, ça, non, c'est la même musique.
Ouais, non. Cyriac, votre chiffre, allez, on va dire 37%, là encore, il est question de super concentration. 37%, qu'est-ce que c'est ?
Alors, c'est le poids du secteur technologique, des valeurs techno, au sein du MSCI émergent. Et c'est vraiment ça le point important. C'est qu'aujourd'hui, quand on investit sur un indice émergent, on a 37% d'exposition techno. À titre d'info, sur un MSCI World, donc sur les pays développés, ce chiffre se situe à 27%. Donc ça, je trouvais ça extrêmement intéressant. Alors, parce que globalement, aujourd'hui, il y a vraiment un bêta technologique qui paraît pas évident à première vue sur le marché émergent. Alors, ça s'explique de manière assez simple. La Corée du Sud, Taïwan, Samsung, TSMC, ces types de sociétés qui explosent à la hausse et qui avaient déjà des capitalisations importantes. Et globalement, on a au sein des semi-conducteurs vraiment des gagnants en Asie et qui permet finalement d'avoir ce pari sur l'intelligence artificielle pour un niveau de valorisation, et ça c'est quand même important, bien plus faible que dans les pays développés. Oui. Donc je trouvais ça très intéressant d'avoir aussi cette dynamique. Les émergents, c'était 15% le secteur techno il y a 10 ans. Aujourd'hui, c'est 37%. Donc le monde des émergents a quand même radicalement changé.
Mais rien que vous me dites émergents, Corée du Sud, Taïwan, on a presque l'impression que ce n'est plus du tout des économies émergentes. Enfin, quand on parle des Skynix, de Samsung, de TSMC, on est quand même dans des puissances économiques absolument colossales. Cyriac Dayan, Sanson Longchamp, IS, merci d'avoir été avec nous pour animer ce club BFM Bourse, ainsi que François Dossou, Siena IM. On revient dans quelques secondes dans BFM Bourse pour signer le fixing à la Bourse de Paris et refaire la séance, bien sûr. À tout de suite.
BFM Bourse, la clôture de la Bourse de Paris.
Et ça y est, c'est le fixing, il est en cours à Paris avec un CAC 40 qui signe une baisse en définitive. Non, on était bien parti pour terminer en hausse. Ça s'est passé dans les dernières secondes de cotation, comme très souvent. Moins 0,07% pour le CAC 40 à 8183 points, je vais y arriver. Et surtout, un gain d'1,3% sur l'ensemble de la semaine. La semaine précédente, on avait gagné 2%, donc on reste quand même sur une tendance positive à Paris. Les volumes d'échanges, on va voir. Ouais, il est peut-être un peu tôt pour avoir les volumes définitifs. Je regarde un petit peu ce que ça donne. Est-ce que vous voyez la même chose que moi, Gilles Santacreux, sur les volumes d'échanges ?
Oui, et j'ai des chiffres. J'attends aussi confirmation, car effectivement, si c'est confirmé, c'est assez énorme.
Je lis 11 milliards d'euros de volume.
J'ai à peu près la même chose.
Ouais. 11 milliards.
J'ai à peu près la même chose.
Bon, on va voir comment ça se passe. Alors, ce ne serait pas totalement idiot dans le sens où on a un effet fin du mois, dans le sens où on a vu certains secteurs vraiment prendre le relais les uns des autres de manière assez forte, où il y a eu ce brusque petit retournement à la fin de la séance. Mais effectivement, si ça se confirme, 11 milliards, ça reste une des séances les plus actives de l'année. Et donc, cette clôture en légère baisse, 8183 points. Gilles Santacreux, boursicoté.com, est-ce que la configuration du CAC 40 a un petit peu changé, ou est-ce qu'on termine la semaine finalement sur le même fil que la semaine précédente ?
Alors, pas sur le même fil que la semaine précédente, mais on termine la semaine un petit peu comme on l'a commencé, c'est-à-dire qu'on a fait quasiment toute la semaine entre 8180 et 8300 points. L'objectif un petit peu de cette semaine, c'était de parvenir à casser cette zone des 8250 points à la hausse. On pensait qu'aujourd'hui, on allait y parvenir, puisqu'on a inscrit un plus haut sur la semaine aujourd'hui, et puis finalement tout est retombé. Alors ces volumes sont assez étonnants, mais c'est vrai que déjà avant la clôture, on avait des volumes qui étaient supérieurs à la moyenne. Donc on va voir un petit peu pourquoi, j'ai pas encore l'explication, mais on va voir un petit peu pourquoi on a ce chiffre. Globalement, on a une semaine où on n'a pas fait grand-chose. On est resté donc dans le même canal, donc une dynamique plutôt haussière, mais dont on attend des confirmations et des signaux de force. Donc l'enjeu la semaine prochaine sera vraiment d'observer si on parvient à casser cette zone 8250-8300 points pour relancer, je dirais, une dynamique qui nous permettrait de viser un retour sur les records. Là où sur les États-Unis, on est sur des records, hein, puisqu'on a eu une hausse sur le S&P 500 et sur le Nasdaq. On a une forte baisse de la volatilité, on a des baisses des cours du brut et toujours une attente sur un éventuel traité de paix entre les États-Unis et l'Iran. Mais bon, pour l'instant, ça n'arrive pas. Voilà, donc on est toujours dans une incertitude, mais avec un peu plus peut-être du côté de l'Europe que ce qui se passe du côté des États-Unis, qui est porté par l'IA toujours.
Merci Gilles Santacreux, boursicoté.com. Vous restez avec nous pour commenter un petit peu les valeurs du jour qu'on va détailler. Bien sûr, on refait la séance. C'est parti.
BFM Bourse, on refait la séance.
Avec Benjamin Rousseau, d'Edmond Rothschild Asset Management, bonjour.
Bonjour.
Et puis Romain Josserand, financière d'USES.
Bonjour. Bonjour.
Merci d'être avec nous. C'est vrai, on le disait en préambule, un petit peu plus tôt, ça aura quand même été l'extraordinaire semaine des semi-conducteurs, là, entre Soitec et ST Microelectronics. On n'a pas arrêté d'en parler, c'était un peu le secteur à avoir. Et on a un petit peu l'impression que... Voilà, on est en train de changer de dimension. Les investisseurs sont en train de se dire, ben oui, il y a pas que Nvidia, il y a pas que Google, il y a pas que Microsoft. Au milieu de tout ça, le marché est devenu très granulaire et les valeurs tech européennes ont leur mot à dire là-dessus.
Tout à fait, tout à fait. Et on a rencontré une société suisse hier qui fabriquent des équipements pour les semi-conducteurs. Et leur message, c'était de dire, nous, on pense que ce momentum qui est très fort sur les semi-conducteurs, nous, on le voit comme étant vraiment très structurel et non plus cyclique comme ça pouvait l'être. Historiquement, le marché des semi-conducteurs, c'était très lié à des cycles de renouvellement. Alors, il y avait le cycle de renouvellement des PC, puis il y avait celui des smartphones, etc. Là, ce qui change, c'est que c'est là vraiment la construction d'infrastructures, les fameux data centers. Donc, on est quand même beaucoup moins dépendant comme ça de ces petits cycles qui peuvent finalement faire long feu. Et il y a un autre élément. Enfin, certains, les esprits chagrins diront c'est une bulle. Il y a 6 mois, la monétisation de l'IA, elle suscitait clairement des interrogations, des craintes. On se disait mais quel va être le retour sur investissement? Pour tous ces milliards de capex, de dépenses d'investissement qu'on fait dans ces data centers. Bon, vous parliez tout à l'heure d'Anthropic, le chiffre d'affaires annualisé d'Anthropic. Anthropic, c'est une société qui est toute récente.
Oui, oui,
c'est
oui.
Aujourd'hui à peu près 50 milliards. Donc, quelque part, la monétisation, il y a des clients. Donc, ensuite, comme vous l'avez dit, c'est beaucoup d'investissements qui se diffusent finalement sur une chaîne de valeur qui est extrêmement bien fournie. Et en Europe, effectivement, il y a beaucoup de sociétés qui sont impactées à des degrés divers par tous ces investissements massifs dans les data centers. Mais j'ai envie de dire, ce n'est pas que des investissements dans les semi-conducteurs et dans les boîtes de tech.
Ouais.
Un data center, c'est aussi, il faut l'alimenter en énergie, il faut le refroidir. Il y a tout un tas comme ça. On a même une société en portefeuille qu'on aime beaucoup, c'est un cimentier grec. Vous allez me dire, mais quel est le rapport entre un cimentier grec et un data center?
Il s'est fabriqué.
Il se trouve que cette société, elle est très présente pour à peu près 60% de son chiffre d'affaires aux États-Unis et notamment sur l'État qui est considéré un peu comme le hub des data centers, c'est la Virginie. Autant vous dire que leur perspective de croissance sur les États-Unis, à cause des data centers ou grâce aux data centers, elle est particulièrement dynamique. Donc, vous voyez,
l'État de Virginie est allé chercher un cimentier grec pour fabriquer.
C'est un cimentier grec qui est présent historiquement sur ce marché-là.
Non, mais l'histoire est géniale. C'est juste ça, quoi.
C'est la beauté des small caps.
Ouais. Non, c'est très intéressant. Et donc, ce changement de sentiment autour des semi-conducteurs, enfin, l'Europe a peut-être quelque chose à dire et on en prend conscience. C'est aussi le sentiment que vous retenez de cette semaine?
Oui, tout à fait. Et ça n'a pas commencé cette semaine parce que la hausse des cours comme de Soitec, de ST Microelectronics, d'Infineon, donc de belles sociétés européennes, a commencé déjà depuis quelques mois. Soitec s'adjuge 700% depuis le début de l'année. Donc c'est vrai que le momentum est très favorable sur le secteur. ça va continuer, à mon sens, pour la raison simple que l'électrification aujourd'hui nous demande d'investir dans des semi-conducteurs, de délivrer des capacités de semi-conducteurs qui sont colossales pour les data centers, effectivement, mais dans tous les types d'industries. Mmh. Donc la tendance va continuer, va s'accentuer. Aux États-Unis, on a aussi la mémoire qui flambe depuis quelques séances. Hein. On a vu Micron mercredi s'adjuger près de 20% en séance,
et devenir,
tout en s'accélérant en cours de séance et passer le cap des 1000 milliards de capitalisation.
Ouais. Donc, il
a rejoint
club,
ce fameux club qui est très prime. Et donc on a trois acteurs principaux dans le monde, qui sont Micron Technologies, SK Hynix et Samsung. Mm. Donc, ils se partagent les parts de marché d'un marché qui est colossal, qui est en pénurie, et dont la pénurie a commencé l'année dernière, se poursuit cette année, devrait encore se poursuivre l'année prochaine, et on parle même de 2028. Mm. Et malgré des hausses assez phénoménales hein, sur ces titres, on a encore des valorisations de sociétés qui sont, enfin, des PE qui sont raisonnables. Sur Micron, on se paye moins de 10 fois les bénéfices pour 2027-2028. Ouais. Donc, ça reste acceptable.
Oui, parce que sur le retour en grâce là, des semi-conducteurs européens, on voit que, alors, notamment du côté de Soitec, on a des multiples de valorisation qui sont, j'allais dire, supérieurs, pire qu'à Wall Street. En gros, il y a quand même des paris qui sont pris à très, très long terme. Quoi.
Alors, les choses, elles vont vite. Donc, effectivement, il faut quand même être sélectif. Mm. Mais il y a encore des très belles opportunités sur le secteur en Europe. Nous, par exemple, en Allemagne, on a une société qui s'appelle SUS Microtech. C'est un équipementier. Les niveaux de valorisation restent encore très, très, très intéressants. La société suisse dont je parlais, qui s'appelle Comet, là aussi, on est exposé notamment à la mémoire. Et ce qui est intéressant, justement, et pour rebondir sur ce qui a été dit sur cette vague liée aux semi-conducteurs, c'est que finalement, tous les feux sont en train vraiment de passer au vert. En fin d'année dernière, on a eu le marché de la mémoire qui a commencé plus que frémir, c'est vraiment, ça y est, repartir en trombe. On a eu également le marché dit du back-end, donc le marché du packaging de puces qui a commencé aussi à repartir. Et puis, en début d'année, là, c'est vraiment, ça y est, cette vague d'investissement IA en provenance des hyperscalers qui a pris le relais et qui finalement a pris surtout tout le monde par surprise. Donc voilà, ce qui est intéressant, c'est que c'est pas juste... Il y a vraiment plusieurs moteurs de croissance qui se sont allumés sur les semi-conducteurs et toute la chaîne est en train petit à petit d'en profiter. Attention néanmoins, bien évidemment, au niveau de valorisation.
Alors, je vais réclamer les lumières de Gilles Santacreux. On a beaucoup parlé de valeurs, alors des valeurs beaucoup plus traditionnelles hein, de la côte française. J'ai nommé De Richebourg et Pierre et Vacances. Partout, on a eu des résultats qui étaient quand même exemplaires et des perspectives vraiment porteuses, alors qu'on a des dynamiques d'activité qui sont quand même assez incertaines. Ben non, ces deux groupes ont vraiment bien réagi. Alors, c'est vrai qu'on a eu une forte hausse de Pierre et Vacances, plus 5,4%, 1,94€, et on voit que c'est un groupe qui a une progression assez régulière en bourse. C'est pas une valeur de forte croissance, mais c'est une valeur qui est vraiment chouchoutée, bien regardée, et qui gagne sur un an un petit peu plus de 30%. Gilles Santacreux, comment ça se passe, la configuration technique de Pierre et Vacances ?
Pierre et Vacances, effectivement, on a une tentative de reprise haussière. Donc, effectivement, sur le court terme, on peut noter que si on arrive à casser cette zone de résistance à 2€, on aura une poursuite d'un mouvement qui est haussier. Alors, bon, le momentum moyen terme n'est pas encore trop fort. Une phase d'accélération serait la bienvenue. Mais globalement, c'est vrai que voilà, sans avoir une dynamique exceptionnelle, on a une orientation qui reste positive, qui tente à se confirmer. On attend juste un peu plus de conviction pour essayer de jouer un mouvement, je dirais, puissant. En termes de configuration, j'ai une petite préférence, effectivement, par rapport aux deux valeurs que vous avez citées sur De Richebourg.
Ouais, De Richebourg, là, il se passe quelque chose d'un peu plus net.
Ah ben, De Richebourg, si on regarde la cotation par rapport au mois de septembre, on a doublé. Donc oui, effectivement, il y a quelque chose qui est intéressant. On revient sur des zones de cotation qui peuvent nous apporter énormément de volatilité. Donc là, on bute un petit peu sous une zone de résistance intermédiaire des 10,50€, mais on a franchi les 10€. On pourrait viser un retour sur 12. Et même par rapport au mouvement que nous avons aujourd'hui, qui invalide un gap baissier par un gap haussier, les signaux sont au vert et on a des dynamiques qui sont un peu plus fortes. Donc effectivement, si on n'a pas peur de se lancer dans une dynamique qui est déjà haussière depuis un petit moment, on a, et il semblerait, un peu plus de potentiel sur ce titre.
Merci Gilles Santacreux, boursicoté.com. On continue ce débriefing de la séance et de la semaine avec Benjamin Rousseau d'Edram et Romain Josserand de la financière d'Uzès. Il y a un autre secteur qui a pris le relais ensuite, et c'était notamment le cas lors de la séance d'hier, c'est celui de la défense. Alors c'est vrai que depuis un an et demi, on promet ce secteur à de fortes croissances et au bénéfice des grands plans d'investissement européens. Ça s'est mis à grimper très fort. Il y a eu un coup d'arrêt en disant ouais, mais les investissements ils arrivent pas pour le moment, enfin tout ça va être très long à décanter. Et puis là, on a droit à une sorte de deuxième étage de la fusée. C'est votre sentiment, Benjamin Rousseau?
Oui, alors nous on reste positif sur le secteur de la défense, même si effectivement une certaine, on va dire, sélectivité quand même reste de mise. Les éléments positifs, structurellement positifs pour le secteur, vous les avez mentionnés. L'Europe est en train de se réarmer, les bruits de bottes se font entendre ici ou là, un peu partout dans le monde. En point, on va dire, un peu négatif, ce qui peut peser sur le sentiment sur ce secteur, bien évidemment, quand vous avez des annonces de cesser le feu ici ou là, le secteur en lui-même, en bourse, il en pâtit. Ouais. Après, il y a une autre incertitude qui peut être quels équipements pour les armées du futur. C'est pour ça que la sélectivité, elle est peut-être de mise. Mais globalement, oui, on sait qu'on a un secteur qui va être en croissance structurelle, j'ai envie de dire, pour la décennie à venir. On parle de croissances qui sont de l'ordre d'une dizaine de pourcents par an, voire sans doute beaucoup plus pour certaines niches ou certains segments qui seront particulièrement attractifs.
Romain Josserand, ça vous intéresse, la défense, vous êtes, mais alors aussi avec sélectivité?
Oui, tout à fait. Surtout la défense européenne, assez peu américaine. Ouais. Les cours ont plutôt bien réagi cette semaine sur des nouvelles de missiles par ici ou par là, en Iran et aux États-Unis.
C'est vraiment le mot. Hein.
Oui,
c'est,
oui, tout à fait.
On en est là.
Tout à fait.
Hein.
On est un peu dans une incertitude constante, voilà. Mais donc oui, la défense effectivement est un thème d'avenir. Les chiffres d'affaires des sociétés, à mon sens, sont devant nous, bien que de la croissance ait déjà été réalisée par le passé, mais des plans d'investissement se débloquent et effectivement tout reste à faire. Hein. Mais nous, on aime des sociétés comme Dassault Aviation, qui moi est une société que je suis particulièrement, qui produit un avion qui est tout à fait magnifique, qui est de cinquième génération, qui est très technologique, qui est un fleuron français
et qui se vend très bien. On va le dire, c'est le plus bel avion du monde.
Tout à fait, il a été adopté par des armées vraiment d'importance, l'Indonésie, l'Inde, la France, hein, voilà.
Et n'oublions pas.
Ne l'oublions pas, exactement. Mais maintenant, la montée en cadence doit se faire. Ouais. On y arrive petit à petit. Hein. Ils tablent qu'en 2028, ils devraient réussir à produire 4 avions par mois. Ils en ont livré 26 en 2025. Donc la montée en cadence se fait, mais le marché l'attend.
Voilà. Alors, vous nous parlez aussi de Semco dans le domaine de la défense. Moi, je ne connaissais pas Semco Technologies. Alors, c'est quoi?
C'est surtout sur la chaîne des semi-conducteurs, donc c'est un acteur de premier plan qui conçoit des produits en des chocs, ouais, qui sont pour les machines ASML, semi-conducteurs et autres, donc qui est un acteur vraiment petit, qui vient de Montpellier, qui s'est introduit en bourse l'année dernière, qui fait à peu près 35 millions d'euros de chiffre d'affaires. Et qui donc a battu les objectifs qu'il s'était fixés lors de l'IPO. Donc on est très content de les suivre et avec attention.
Ok, ouais, non parce que ça venait avec vos recommandations. Donc je pensais que c'est secteur de la défense, rien à voir. Secteur des semi-conducteurs, hein, Semco pour jouer les semi-conducteurs et là. Techno-européenne. Un petit mot peut-être aussi du secteur du tourisme. C'est vrai qu'on a vu, on en parlait avec Gilles Santacru, une belle performance de Pierre et Vacances. Alors je dirais que c'est un peu le portrait robot de l'acteur rêvé sur lequel il faut miser. Là, avec les considérations d'inflation, les gens sont plutôt tentés de rester en vacances en France. On échappe à l'agitation géopolitique. Pierre et Vacances, si on veut jouer le tourisme, là encore dans cette optique de granularité, on est peut-être en plein dedans, non?
Oui, sans doute. Alors, je vais pas vous faire une réponse très, très satisfaisante. J'ai pas un avis très éclairé, on va dire, sur Pierre et Vacances. On est assez peu exposé, finalement. On est au secteur du tourisme. On l'était avant le déclenchement de la guerre en Iran et de facto, on l'est même encore moins depuis. Voilà, on était assez prudent, finalement, dans un environnement de consommation qui nous paraissait pas encore peut-être suffisamment fort pour être positif structurellement pour les valeurs de tourisme. Donc voilà, on a une ou deux expositions, plutôt en Europe d'ailleurs. Mm-hmm. Mais globalement, c'est pas un secteur qu'on met forcément en avant aujourd'hui.
Romain Josserand, vous, au contraire, vous êtes plutôt positif dessus ?
Alors, je suis positif. On est assez peu exposé à ce secteur aussi. On le voit dans les chiffres de Pierre et Vacances qui ont été publiés hier soir, que la tendance à la hausse repart. Hein. Ils ont publié un chiffre d'affaires en croissance de 6%, donc l'exécution opérationnelle est là. Par contre, le secteur est quand même assez sensible à chaque mouvement géopolitique. En l'occurrence, eux devraient être impactés, à mon sens, assez positivement de la guerre en Iran, parce que les Français devraient voyager au sein de l'Hexagone. Donc, toutes les marques Center Park et autres devraient être touchées assez sensiblement, mais de manière positive. Voilà.
Bon, et un dernier mot, Benjamin Rousseau, Lizzy. C'est une valeur dont on parle beaucoup et qui conserve tous ses intérêts là aussi dans toutes les dynamiques du moment.
Oui, complètement. Nous, c'est vraiment une très forte conviction. Finalement, on pourrait se dire, ah, mais avec la guerre en Iran, il y a moins de trafic aérien, en tout cas sur cette zone-là. Donc, se dire, ça va impacter négativement des acteurs comme Lizzy. En réalité, il faut bien comprendre que Airbus, malgré les quelques petites difficultés qu'ils peuvent avoir, c'est surtout des problèmes de riches et une difficulté à monter en cadence, à faire monter leur cadence de production. Vous avez un carnet de commandes qui est colossal chez Airbus. C'est peut-être 8 ans ou 10 ans de carnet de commandes. Et derrière, la chaîne de valeur, elle a du mal à suivre. Donc finalement, le discours des sociétés, on va dire, qui sont dans cet écosystème des équipementiers aéronautiques, c'est de dire, si Airbus finalement ne peut pas monter en cadence aussi vite que prévu, finalement ça ne fait que
précisément
on aura un petit peu moins de retard au niveau de la chaîne de valeur. Donc on a énormément de visibilité, et pour le cas plus spécifique de Lizzy, voilà, c'est une société qui est excessivement bien gérée, qui automatise typiquement dans l'aéronautique, sur ces chaînes d'assemblage, qui fait beaucoup d'un gros effort d'automatisation, donc ce qui est assez intéressant. Voilà, ils sont bien embarqués avec Airbus et également avec Boeing. Enfin voilà, c'est vraiment une valeur qu'on aime bien. La rentabilité devrait continuer de s'apprécier au cours des prochaines années. J'ai envie de dire, elle coche toutes les cases. Donc, elle a déjà un très beau parcours. S'il y a une petite faiblesse, il ne faut pas hésiter à en faire un petit peu.
Lizzy à retenir, hein, l'équipementier aéronautique. Benjamin Rousseau, Edmond Rothschild Asset Management, merci d'avoir été avec nous pour débriefer la séance. Romain Josserand, financière d'Uzès.
Merci, Antoine.
Je vous retrouve lundi aux commandes de Tout pour Investir de 11h à midi. Et d'ici là, pour trouver Mathieu Jolivet, les experts sans frontières. A tout de suite.
BFM Bourse, vos placements, nos conseils sur BFM Business.